Au Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile de ce jour possède une tonalité tout à fait particulière. On reconnaît bien le style de Saint Jean. Toujours, ce discours est sous forme d'adieu, mêlant à la fois recommandation, anticipation des choses à venir, annonce, et aussi explication et explication claire, sans usage de parabole. Le Christ, et c'est ce qui est important, explique ce qu'il va faire, ce que va être désormais sa conduite. Et il donne ainsi des précisions extrêmement importantes sur sa propre personne. Jésus lui dit en effet, « Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne à mon Père. » Eh bien, chers amis, c'est le grand mouvement circulaire, on peut dire, de la personne du Verbe de Dieu, de ce qu'elle est venue faire, d'où elle vient et où elle va. Et s'il y a deux questions qui sont extraordinairement importantes en ce monde, c'est bien celle de l'origine et celle du but. Notre Seigneur Jésus-Christ sait parfaitement d'où il vient. Il sait parfaitement quelle est sa filiation. Et on n'a pas besoin d'expliquer plus avant ce qu'il en est de l'importance de ce thème à l'heure actuelle. Notre Seigneur sait d'où il vient, il est sorti du Père, et où il va rejoindre le Père. Aussi pour nous, cela a une importance tout à fait importante, parce que l'activité du Christ est ramassée dans ses paroles. Il insiste sur son origine divine, qui va expliquer son départ. Pourquoi il ne reste pas au milieu de ses disciples? Parce qu'il lui faut rejoindre le principe sans principe qu'est la personne du Père des cieux. Le Christ, en effet, n'est pas de la terre, il doit être glorifié au ciel en rejoignant son Père. L'attitude des apôtres face au mystère du Christ est exactement la même que la nôtre. Nous aussi, on pourrait dire, nous venons du Père et nous allons au Père. Nous aussi, nous sommes sortis de Dieu parce que l'âme qui est la nôtre est créée par Dieu. C'est lui qui est notre origine première et alors, la fin qui est la nôtre rejoint le principe. Notre âme, un jour, doit, et elle est faite pour cela, rejoindre le Père des cieux dans la vision béatifique. Ainsi, nous aussi, quelles que soient les péripéties de notre aventure humaine, nous savons d'où nous sommes, de Dieu, et nous savons où nous allons, à Dieu. Mais évidemment, si le chemin, eh bien, de sortie de Dieu est assez clair, le chemin de retour est difficile. Parce que le péché a endommagé notre retour à Dieu. Il a même empêché notre retour à Dieu, et c'est pourquoi Dieu lui-même a voulu venir en personne sur la terre pour pouvoir nous permettre de rejoindre à sa suite Dieu le Père. Pour rejoindre ainsi pour le Père, pour accomplir ce pour quoi nous sommes faits, il faut, à l'exemple des apôtres, aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile, « Le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. » Et combien cela doit nous occuper aujourd'hui, toute cette semaine, et même nous mettre dans une joie incroyable. Nous bénéficions de l'amour du Père des cieux. Et nous bénéficions de la vie ouverte des cieux, pas seulement parce que Dieu est tout amour, mais aussi il y a comme une sorte de réciprocité. Parce que lorsque nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le Père des cieux nous aime. C'est assez classique de voir, lorsque on aime, eh bien, les enfants, eh bien, alors les parents aiment celui qui aime ses enfants. C'est une expérience commune que l'on peut faire. Eh bien, ici, il en est de même dans cette famille des cieux qui s'appelle la Trinité Sainte. Lorsque l'on aime profondément notre Seigneur Jésus-Christ, alors le Père nous aime aussi. Nous bénéficions de cet amour incroyable que Dieu le Père porte à son Fils. En nous, il voit désormais son propre Fils. Cet amour, nous devons sans cesse le faire grandir. Sans cesse, nous devons nous rapprocher de Jésus-Christ. Nous devons l'aimer profondément à tel point que nous devons l'imiter et avancer vers lui, même jusqu'à être prêt à mourir pour lui. Et évidemment, cet amour ne peut pas être très consistant s'il n'y a pas une foi en Jésus-Christ. Et si le Père aime les apôtres, et si le Père nous aime, pose un regard d'amour tout à fait particulier sur nous en tant que chrétiens, c'est parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est parce que le mystère du Christ n'est pas pour nous quelque chose d'étranger à notre intelligence, mais que nous l'avons accueilli en nous, en notre âme, en notre intellect, parce que nous avons la ferme assurance, et nous posons cet acte de foi, que le Christ est vraiment Dieu, qu'il est vraiment sorti du Père, et que véritablement, il rejoint le Père. Mais tout particulièrement, sa préexistence par rapport au temps, sa préexistence éternelle, c'est elle que nous voulons poser en notre Seigneur Jésus-Christ. La personne du Verbe est éternelle. Celui que nous voyons comme étant le Christ existe de toute éternité. Et cela, je crois qu'il faut le méditer, essayer de le comprendre toujours plus profondément et y adhérer, parce que le mystère est inépuisable, y adhérer avec fermeté. L'année de la foi nous oblige à poser des actes de foi réguliers, récurrents, toujours plus intenses pour rester unis à Jésus-Christ par cette vertu tout à fait particulière de la foi. On n'avance pas dans l'amour de Dieu si on n'avance pas d'abord et avant tout dans la foi en Jésus-Christ. Et alors, parce qu'il y a désormais ce rapport d'amour extraordinaire entre nous et le Père, entre le Père et nous-mêmes, alors notre prière va obtenir sa récompense. Nous pouvons désormais prier au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ va bientôt remonter au ciel le jour de l'ascension. Depuis la résurrection, le Christ a acquis toutes les grâces, tous les mérites dont nous avons besoin. Tout ce qui, tout ce dont nous avons besoin, désormais, le Christ le possède et veut nous le donner. Désormais, le Père veut nous le donner parce que cela nous a été acquis. Alors, de grand cœur, le Père, parce que nous invoquons le Fils qui a souffert sa passion, qui est mort et qui est ressuscité pour nous et pour d'abord rendre gloire à son Père, alors désormais le Père va pouvoir nous exaucer et nous exaucer largement. C'est pourquoi notre prière est une prière chrétienne, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au Père par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit. Notre prière est une prière trinitaire, notre prière est une prière chrétienne, l'intermédiaire par excellence, le médiateur, c'est Jésus-Christ. Alors, encore une fois, parce que nous sommes proches dans la foi et dans la charité du Christ, nous pouvons demander en son nom et le Père va nous accorder ce que nous voulons, parce que cela, évidemment, est bon et que cela rentre dans les vœux de la Providence. N'oublions pas qu'avec la prière, comme le rappelle très justement Saint Jacques dans son Épître, il ne s'agit pas seulement de prier. Il ne s'agit pas seulement d'être des chrétiens de bouche, mais véritablement des chrétiens authentiques, c'est-à-dire qui fassent passer dans ses actes ce qu'ils pensent, c'est-à-dire sa foi et ce qu'il aime, à savoir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est un chrétien authentique qui ne peut pas se contenter de simples petites pratiques de piété pour ensuite retourner dans le monde et faire le mal. Non, le Christ, le Père, le Saint-Esprit attendent beaucoup plus et beaucoup mieux que nous. Conservons-nous également ces ultimes conseils de Saint Jacques dans son Esprit, dans son Épître. Conservons-nous purs au milieu de la corruption du monde. Et nous voyons cette corruption qui, malheureusement, dans tous les pays, presque continue de grandir. Le chrétien n'a pas peur de cela parce qu'il sait que son amour et sa foi en Jésus-Christ lui permettent, eh bien, malgré la corruption grandissante, de rester pur à travers cela et de faire son retour au Père avec la grâce de Dieu que la Sainte Vierge ne demande pas de nous transmettre, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.